7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, quand les enfants quittent le nid, délivrance ou déchirement, un sujet dont on parle peu finalement, comme si cette étape de la vie prévisible, inévitable, n'en était pas moins parfois délicate, devoir partir les uns après les autres, les enfants, pour travailler, pour se marier, pour s'expatrier, bref, pour vivre leur vie d'adulte. En France, 35% des parents éprouvent ce syndrome du nid vide. Alors comment réinventer sa vie? On va en parler avec nos invités. Bonjour Béatrice Copper-Royer.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes psychothérapeute, psychologue clinicienne et vous avez publié il y a quelques années Le jour où les enfants s'en vont. Marie-Josée Dastré, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes formatrice en communication interculturelle, mais vous avez raconté votre expérience personnelle dans Le nid vide, récit d'un mal de mère et petit guide pour parents esseulés. On sera également en ligne avec le psychologue Mamadou Mbodj à Dakar au Sénégal qui nous dira si la maison se vide vraiment un jour ou jamais avec l'accueil notamment d'autres enfants du cercle parental. Les voisins et les voisines, on attend vos témoignages de parents désormais solitaires. Comment vivez-vous cette distance avec vos enfants en tant que mère ou père? Et quant aux jeunes générations qui ont pris leur envol, évidemment vous avez aussi la parole. Quelle est l'ambiance à la maison quand vous revenez le temps d'un repas? Appelez-nous pour partager au 33 1 84 22 71 71. C'est aussi notre numéro de téléphone WhatsApp pour nous laisser des messages. Et puis ceux qui rêvent de partir, de quitter le foyer, mais qui ne peuvent pas pour une raison ou pour une autre, appelez-nous aussi, bien sûr, si vous rongez votre frein. Allez, je rappelle le numéro 33 1 84 22 71 71. Je vous lis le message posté par un internaute au Tchad, 29 ans. Il nous dit « Quand j'ai quitté la maison familiale pour aller vivre avec ma femme, ça a été un soulagement pour mes parents. Papa m'a dit clairement qu'ils allaient pouvoir mettre en location ma chambre, que ça allait rapporter de l'argent, que je n'allais plus ni manger leur nourriture, ni utiliser leur savon. Ils étaient contents que je ne sois plus à leur charge. » Mais c'est pas mal aussi de dire les choses. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas ses enfants.
Non, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas ses enfants. Ça veut dire qu'il y a un temps pour tout.
Exactement.
Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour s'occuper d'eux, subvenir à leurs besoins. Et puis, il y a un temps pour qu'ils s'envolent. Et c'est peut-être ce que ses parents voulaient dire.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
On existe ensemble.
Alors, quand les enfants quittent le nid, ça donne quoi pour Virginie qui nous appelle de Yaoundé, au Cameroun? Bonjour Virginie.
Bonjour voisine, bonjour à tous les auditeurs.
Eh bien, soyez la bienvenue voisine de Yaoundé. Vous avez 55 ans Virginie, et ça y est, tout le monde est parti là?
Tout le monde est parti.
Oui, c'est-à-dire 4 filles, hein, je crois, qui ont quitté le nid.
Oui, je suis maman de 4 filles, toutes sont parties. Et je me suis retrouvée avec mon époux tout seul à la maison.
Oui. Et alors, oui. C'était quoi le changement au juste?
Au début, pour moi, je me disais, bon, j'ai fait ce que nous avons fait, ce que nous avions à faire, les éduquer et qu'ils prennent leur envol. Mm-hmm. Et après, on s'est retrouvés, le monsieur il me prenait comme aussi sa petite fille. Mm-hmm. Toutes les tâches, il fallait le faire. Et à un moment donné, ça a un peu craqué dans ma tête. J'ai dit que mais c'est pas l'enfant de la maison.
Ah oui, vous voulez dire qu'en fait, vos filles faisaient énormément de tâches domestiques à la maison?
Oui, elles étaient un peu comme une aide à la maison pour moi aussi.
Oui. Donc, c'est vos filles qui géraient la maison, si j'ai bien compris?
Non, pas tellement. C'est-à-dire qu'il y avait une ménagère, mais quand on se retrouve à deux le soir, peut-être les petites courses des quartiers, les petites commissions, elles le faisaient.
C'est ça. Et donc, tout est retombé sur votre dos une fois qu'elles sont parties?
Voilà,
ah oui.
J'ai retombé sur mon dos une fois qu'elles sont parties. Et à un moment donné, moi, je me suis rendu compte qu'il ne voulait pas mettre la main à la tête.
Oui.
Il n'aidait pas. Et du coup, j'ai commencé un peu à me plaindre auprès de lui. D'abord, il ne comprenait pas. Et une fois, quand les filles étaient à la maison, je me plaignais régulièrement auprès de mes filles. Et un jour, elles ont parlé avec leur père. Et c'est là où il a compris.
Ah oui, donc en fait, c'est vos filles qui servent un peu d'intermédiaire pour pacifier la situation après leur départ, si je comprends bien.
Oui, après leur départ, quand ils étaient là, on était très complices. Chaque fois, on était ensemble en allant au travail, au retour, à la maison, on était ensemble. Et du coup, ça crée un vide.
Oui, c'est sûr. Béatrice Copper-Royer.
C'est très intéressant. Le témoignage de Virginie est très intéressant parce que, en fait, elle met en évidence la difficulté, peut-être après le départ des enfants, pour le couple de se retrouver en tête à tête. Parce que les enfants sont un écran formidable. Et évidemment, le couple peut se perdre de vue. Et ce sont ces retrouvailles qui parfois posent problème. C'est un peu ce que nous dit Virginie, que tout d'un coup, elle s'est retrouvée avec un mari dont elle voyait peut-être des défauts qu'elle avait un peu oubliés.
D'autant plus quand effectivement les enfants servent en quelque sorte aussi de tampon hein, pour régler les petits inconforts du quotidien sur le plan matériel, sur la marge de la maison avec trois filles.
Moi, je trouve ça très intéressant parce que moi qui travaille beaucoup sur la dynamique d'équipe et la communication interculturelle, la communication entre les êtres humains en général, quand on a un changement dans une équipe, en entreprise, on appelle un coach. On trouve que c'est normal, dès que le groupe se modifie, qu'il y a des nouveaux arrivants ou qu'il y a des personnes qui s'en vont, de réfléchir à la nouvelle manière dont s'instaurent les rapports. Dans les familles, souvent, ça s'est laissé comme si c'était quelque chose de normal. Bien sûr, c'est normal, ça ne veut pas dire que c'est facile. Donc là, la dynamique du groupe est complètement changée et il faut trouver des nouvelles manières de fonctionner.
Virginie, ça fait combien de temps que la dernière fille a quitté la maison chez vous ?
La dernière fille est partie, ça fait 3 ans.
Ah oui. Et donc aujourd'hui, ça y est, vous avez trouvé une vitesse de croisière avec votre mari ?
On a trouvé une vitesse de croisière, on a partagé les tâches, il s'implique de plus en plus parce que lui-même, il a pris sa retraite. De plus en plus, il s'implique et on fait beaucoup de choses en commun.
Eh ben,
on voyage ensemble, on revient, on partage beaucoup.
Et au bout de combien d'années de mariage, finalement ? Vous avez trouvé
cette... Ça fait quand même long, hein, ça fait 35 ans.
35 ans, finalement, ça y est, l'égalité du couple est arrivée au bout de 35 ans.
Formidable.
Eh ben, c'est formidable. Merci beaucoup, Virginie, de nous avoir appelés en direct de Yaoundé. Très, très bonne journée à vous, Virginie.
Bientôt.
À bientôt, Virginie. Tout de suite, je vous propose d'écouter le témoignage en France, en région parisienne, de Daniel et Cécile, tout juste la soixantaine. Ils ont raconté à Inès Edel Garcia le départ du dernier de la fratrie, Nicolas, 24 ans, qui a quitté le nid il y a 5 mois.
Cette pièce servait de salle de jeu pour Nicolas quand il était là, qui maintenant sert de deuxième cave pour l'instant et qui devrait redevenir un bureau plus tard.
Nicolas, donc notre fils, est parti là au mois de juin pour s'installer avec une amie. Je commence à ressentir le fait que, ben oui, il est vraiment parti. Et puis c'est le dernier à partir.
J'ai pas eu de déchirement, il n'y a pas eu de soulagement. C'était vraiment, comme pour Marion, ça s'est fait très progressivement. Donc on n'a pas eu un choc d'une disparition. Et là, ils partent, c'est une nouvelle étape.
Et racontez-moi, comment s'est passé votre première soirée en tête à tête une fois Nicolas parti?
Il n'y a pas eu de première soirée. On a eu une intimité, je dirais, progressive et de plus en plus présente. Mais il n'y a pas un soir où on s'est retrouvé devant notre assiette à se regarder dans les yeux. Non, non.
C'est... Disons qu'on avait déjà eu l'habitude de voir Nicolas sortir pas mal. Il était souvent dehors, donc souvent on se retrouvait déjà tous les deux.
Il rentrait, il sortait comme il voulait, il était chez lui et nous, c'est pareil. Il n'avait plus besoin de notre présence. Donc quelque part, on n'avait plus besoin non plus de la sienne. On cohabitait d'une manière très intelligente, très bonne.
Et donc là, on entre dans la chambre qui a été initialement celle de Marion et qui ensuite est devenue celle de Nicolas.
Tout à fait. Donc là, dans la chambre, il y a une bibliothèque avec beaucoup de mangas, un certain nombre d'instruments de musique, des guitares de différents types, une guitare acoustique, guitare électrique, guitare basse, des amplificateurs, un piano.
En dehors de posters ou de photos, en fait, on pourrait très bien s'imaginer qu'il y ait un jeune garçon qui continue à vivre dans cette chambre.
Oui, tout à fait, parce qu'en fait, il a emmené à peu près la moitié de ses affaires, mais il y en a encore ici, pas mal. Oui. Oui, oui.
Je repensais à l'histoire des sorties de Nicolas, enfin, des retours tardifs après avoir travaillé. Enfin, bon, moi, j'avais tendance à toujours préparer les repas pour 3 et à mettre une assiette de côté. Alors que là, maintenant, je fais vraiment pour 2, quoi. C'est un peu une chose, au début, il a fallu que je m'habitue en faisant mes courses. Bon, je pense pour 2, hein, je pense plus pour 3.
Et ça se sent au niveau du frigidaire, parce que quand Nicolas était là, il y avait du jus de fruits, il y avait des yaourts, il y avait toutes sortes de produits que lui consommait beaucoup. Maintenant, j'ouvre le réfrigérateur, je le trouve plus triste.
outre les produits dans le frigo, qu'est-ce qui marquait sa présence ici?
Non, bien sûr, par exemple, il jouait de la guitare parce qu'il est musicien aussi, donc il amenait une présence au travers de la musique qu'il écoutait ou qu'il jouait, enfin, ce genre de choses. Les contacts avec les copains aussi, les allées et venues, enfin, des choses qui se font plus maintenant, quoi, c'est sûr.
On n'est pas tout seul, on est avec nos monstres.
Deux chats, ils sont bien présents à la maison. Et quelque part, sur le plan, c'est vrai, de la présence, ben, ça amène quelque chose. Et c'est vraiment une compagnie aussi.
Bon, alors tout de même, faut-il le reconnaître ou pas? Quand les enfants quittent le nid, c'est pas la folle ambiance à la maison, Béatrice Copin.
Non, c'est un gros changement. C'est quand même une étape qui nous renvoie aussi à notre propre vieillissement. Donc, c'est jamais hyper réjouissant non plus. Et puis, c'est dans les petits détails que la vie quotidienne change. Et ce témoignage le confirme. Dans le réfrigérateur, il y a moins de choses, il y a moins de bruit, il n'y a plus de musique, les portes ne claquent plus. C'est un vrai changement et je pense que ça ne laisse personne indifférent. Alors ensuite, il y a des émotions qui sont avec des intensités très très variables. Ça va du simple petit passage à vide à la franche dépression, ce qui est quand même plus rare. Hein. Mais ça ne laisse personne totalement tranquille.
Et en même temps, on n'en parle pas, Marie-Josée Dastrée. C'est pour ça que vous avez voulu écrire sur le sujet.
Oui, c'était vraiment la naissance du livre et comme ça, c'est-à-dire... si vous dites à des amis, je sais pas, j'ai perdu mon travail ou je divorce, les gens ont beaucoup d'empathie et vous soutiennent et vous disent ma pauvre, etc. Et lorsque j'ai eu un vrai petit coup de mou au moment du départ d'un de mes fils pour l'étranger, c'est ça qui avait provoqué ce nid vide chez moi, les gens me disaient mais tu vas quand même pas te plaindre, c'est quand même normal. Et j'étais absolument d'accord avec ça, j'avais juste envie de leur dire que c'était difficile. Et là-dessus, il y avait un vrai tabou. J'ai trouvé quelques livres, j'ai trouvé celui de Béatrice, bien sûr, et j'en ai trouvé d'autres, mais relativement peu de choses, et surtout, tout était écrit dans ce que moi je ressentais comme quelque chose, un processus, rentre dans un processus. Moi, ce que je voulais, ce que je veux vraiment, et je suis très contente quand des émissions existent sur Nivide, c'est dire aux gens, vous avez le droit d'être triste. C'est un vrai droit. Vous pouvez être un peu soulagé, ça va ensemble. Et vous avez le droit d'être triste.
C'est ça, on peut être triste et soulagé.
Oui, et c'est pas un tabou.
La seule chose, c'est qu'on a tout à fait le droit d'être triste, mais je pense qu'il ne faut pas non plus faire peser sa tristesse sur les enfants. Parce que les enfants peuvent être dans un sentiment comme ça, un peu de dette et de culpabilité qui est assez poisseux. Et moi qui reçois des jeunes adultes en consultation, je trouve que parfois, il y en a qui sentent cette détresse, notamment, c'est vrai, chez les mères seules, qui ont élevé leurs enfants seuls, quitter une mère dans un contexte comme ça, c'est pas toujours facile. Donc c'est vrai que on a le droit d'être triste, mais il faut essayer de garder un peu ses émotions ou en tous les cas de les livrer ailleurs.
Donc on n'en parle pas avec ses enfants.
Non,
ça les regarde pas finalement.
Alors moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça. C'est-à-dire
vos enfants, ils sont partis presque simultanément. Donc là, ça a quand même été le gros trou d'air chez vous.
Mais ce qui est très intéressant pour moi, c'est qu'ils étaient déjà partis quand j'ai fait mon évite. C'est le moment où tout à coup est parti à l'étranger pour se marier à l'autre bout de la terre. Et là, je me suis dit, mince alors, ils sont partis pour de vrai. Parce que ce que vous disiez tout à l'heure, au sens où il y a un peu ces enfants boomerang aujourd'hui, qui reviennent à certains moments, il y a toujours quand même du passage, il y a de l'énergie dans la maison qui circule autrement quand même. Et là, tout à coup, je me suis dit, tiens, c'est une autre forme de vie qui s'installe. Et c'est là, en fait, que la décompensation s'est faite. Et je pense que quand on est triste, les autres le savent, les proches le savent ou le sentent. Je pense que l'exprimer, dire « je vis un passage difficile et je n'ai pas l'intention de m'y attarder », pour moi, c'est assez OK. Et c'est d'être à l'aise avec ça si ça se produit. C'est vraiment ça, pour moi, le message en tant qu'individu.
Vous avez reçu des réactions de femmes ?
Énormément. Alors, moi, ce qui m'a bouleversée...
Pas de femmes et d'hommes ?
Alors, c'est intéressant, parce que la question des femmes ou des hommes, pour moi, c'est ce que j'appelle le principal parent éducateur, c'est-à-dire celui qui, quelque part, a beaucoup organisé sa vie autour des enfants. Dans le monde que je connais, c'est principalement des femmes, donc je pense que c'est ça. En plus, il y a un message médiatique et social autour des femmes qui est une injonction quand même d'être une bonne mère, c'est pas rien. Donc je pense qu'on est pris entre cette injonction-là et puis le fait qu'on en assume des fonctions très fortes.
Oui. Moi, je crois que c'est hommes ou femmes.
En tout cas, les hommes n'en parlent quasiment jamais.
Ils en parlent quand même.
Déjà, une femme, elle a peur de passer pour une mère possessive, hein, si elle se plaint.
Parce que moi, les hommes que j'ai entendus, ils avaient aussi le sentiment du devoir accompli. Et ils étaient heureux, finalement, d'avoir mené leurs enfants au bout du chemin. Et les voir s'envoler, c'était une vraie satisfaction, comme s'ils avaient fait, ils avaient bien fait leur boulot, quoi. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que c'est quand même très en lien avec son histoire personnelle. Les épreuves de séparation qu'on a pu avoir dans l'enfance, la façon dont on est parti soi-même de chez soi,
évidemment, ça revient à ce moment-là.
Oui, je crois que ça pèse beaucoup. Je me rappelle un homme qui, justement, avait perdu son père très tôt et avait été mis en pension très tôt parce que sa mère ne voulait pas le garder dans ses jupons. Et donc, avec en réalité une angoisse de séparation extrêmement forte, quand il avait conduit sa fille unique à l'université, pourtant pas très loin, mais quand même à 500 km de chez lui, il avait eu un vrai passage à vide. Et donc, je crois que, homme ou femme, quand on a vécu soi-même des épreuves de séparation et qu'elles sont plus ou moins bien liquidées, ce moment-là est un moment compliqué.
Est-ce qu'il y a une spécificité des pays latins? En France, les enfants partent vers 23 ans en moyenne. Aux États-Unis, les enfants partent plus tôt.
Aux États-Unis, les enfants partent
au bout du pays.
Voilà, c'est ça. Hein, donc, c'est quand même assez fréquent. En Angleterre, par exemple, peut-être moins aujourd'hui, mais les enfants partent en internat très, très, très facilement. Donc, je pense qu'effectivement, les pays latins sont plus sensibles à ce départ, peut-être, parce qu'il y a moins de préparation. Mettre un enfant en internat aujourd'hui en France, c'est plutôt une punition. Ça ne fait pas partie du mode de vie.
7 milliards de voisins, vous nous appelez, on parle des enfants qui quittent le foyer, la maison, pour travailler, pour vivre leur vie. 33 1 84 22 71 71, comment le vivez-vous si vous êtes parent et que la maison apparaît de manière finalement relativement vide aujourd'hui, ou si vous faites partie des enfants qui partent, vous pouvez bien sûr nous parler de vos parents.
Maman! Et fais-moi un petit déjeuner avec du chocolat et des croissants.
J'arrive.
Et tu restes là, papa.
Papa, oui. T'as pas 50 euros pour sortir ce soir?
Alors la piston, tu peux te gratter.
Ok, c'est pas grave. De toute façon, là, je suis sur un plan. Avec Bruno, on va monter une boîte, une start-up. T'es trop vieux pour savoir ce que c'est. Mais quand je serai à Silicon Valley, va t'entendre plus parler de moi.
Une boîte du silicone, il va te venir péder le cou.
Chez la maman, t'es ma. Le grand adec que t'es à l'âge que t'as. C'est là que t'as poussé, t'es pas pressé. Génération t'en guide, c'est la 35e année que t'en quitte. Sous ce toit, sous ce toi, tu vas pas squatter là toute ta vie. Trouve une raclée, trouve un taf, l'ami. Car le temps passe, toi t'es là, tu traînes avec les petits de la thèse. Tu fumes ta dièse, tu tisses ta 16. T'es un vrai souci, toujours pipé, tu nous rends ouf avec tes stories. Tu joues l'enyance, mais t'es toujours en rien. Je t'amuse la galerie, tu nous fais de galerie. Grossiste, mais t'es une grosse pince. Y'a aussi les meufs à la recherche d'un mari. Quand le biche passé, faut à tout prix se caser. Car c'est pas une vie. Toi t'es toujours à la zombie, ma fille. Quand le biche passé, faut à tout prix se caser. Car il faut faire sa vie. Un passé mouvementé, un CV bien épais. Ton nouveau mec est pas au courant de ton casier. Tu fais ta précieuse. Arrête de faire croire que t'es sérieuse. T'as pas ton vie, on t'a cramé.
Si on ne remplit pas les fils leur milliard d'impôts avant le mois de février, on les sent dans la merde.
Jérémy, tu veux pas nous prendre un coup de pied au cul?
C'est bon quoi? Attends, je suis pas sûr d'être vacciné.
Je suis vacciné, ça fait 18 ans que tu l'es, mon vieux. Mais alors tu dégages dans la chambre.
Non, mais attends,
tu dégages dans la chambre.
Mais qu'est-ce que tu fais?
J'ai rien fait.
J'ai dit maman. J'ai rien.
Tu dégages dans la chambre, Jérémy.
Vous présentant.
Voilà, il y a aussi la génération Tanguy, hein, ceux qui prennent racine, comme le chante le groupe de rap Sniper. Vous nous écoutez au 33 1 84 22 71 71 quand les enfants quittent le nid. Je vous lis quelques messages postés sur nos réseaux sociaux. Daniel à Kinshasa nous dit que quand les enfants quittent la maison, c'est un plaisir pour les parents de voir leurs enfants voler de leurs propres ailes. À l'inverse, ils seraient inquiets qu'un enfant ne parvienne pas à quitter la maison. Et pour les filles, ici en RDC, les parents préfèrent qu'elles restent au domicile jusqu'à leur mariage, même si elle a les moyens de s'assumer financièrement. Personnellement, nous dit Daniel, moi je ne soutiens pas cette thèse. Il y a Maisie aussi qui nous écrit du Congo Brazza, la nature a bien fait les choses, il y a un temps pour vivre avec les parents, un temps pour faire sans eux, et je me dis que moi, tôt ou tard, je partirai, mais pour cela, il me faut une situation qui me permette de subvenir à mes besoins, d'être responsable, d'être indépendante. Si je réalise cela, mes parents seront fiers de moi. On voit bien aussi que du côté des jeunes, il peut y avoir une forme d'impatience, et elle est bien compréhensible bien d'ailleurs, sûr. Les parents la comprennent. Hein. Mohamed à Moroni nous dit, chez nous aux Comores, un enfant doit toujours prendre soin de ses parents, rester en contact avec eux, ce qui peut créer de la tristesse ou de la joie lors du départ d'un fils. C'est par exemple si ce fils a une femme qui l'éloigne de sa famille. On prend une voisine qui nous appelle de Brazzaville. Bonjour Garcia.
Bonjour Emmanuel.
Garcia, vous avez 37 ans et vous avez quitté la maison il y a déjà pas mal de temps. Hein. Vous aviez 30 ans ?
Oui, j'ai eu 30 ans quand j'ai quitté la maison de mes parents.
Et la particularité, c'est que vous n'étiez pas mariée.
Non, je n'étais pas mariée, non.
Comment ça s'est passé?
C'était pas facile parce que tout le monde a des yeux écartés. Quand vous dites que vous ne voulez pas rester dans la famille, on pense que pour une femme seule, ne pas vivre en famille, c'est... On pense qu'on a des idées, quoi. On pense des choses méchantes, horribles. On pense que c'est quelqu'un qui a une vie pas bien, qui a une vie un peu...
dissolue. Mais vous étiez la dernière à quitter la maison ou pas?
Non, pas la dernière. Parce qu'il y en a encore qui sont chez les parents.
Il y en a encore qui sont chez... Donc vous n'avez pas laissé un nid vide?
Non.
Merci de nous avoir appelé, Garcia. On donne la parole à un psychologue à Dakar, je vous l'avais annoncé. Mamadou Mbodj est en ligne avec nous, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, on aimerait savoir à Dakar, finalement, est-ce que la maison se vide vraiment un jour au pays de la Teranga?
Ben, écoutez, ça arrive. Hein. Il arrive que la maison se vide. Si vous voulez, il y a des changements lents qui sont en train de s'effectuer dans nos sociétés avec la tendance à la nucléarisation des familles. Ce qui fait que souvent, il arrive, on en voit dans les capitales, dans les villes, en tout cas qu'avec les départs des enfants, que la famille se vide. Mais c'est quand même une exception par rapport à la règle générale qui est liée à la structure de l'organisation sociale de la famille. Qui est très étendue avec des composantes variées qui ne se résument pas au couple ni à ses enfants.
C'est ça, ça veut dire qu'on accueille toujours un enfant de la parentalité, absolument, proche ou lointaine.
Il y a toujours un enfant.
Pour des raisons matérielles.
Absolument. Et s'il n'y a pas l'enfant de la parentalité, des neveux, des cousins et autres, il y a aussi la belle-famille, il y a les grands-parents. Ce qui fait que le couple, en tout cas, a toujours quelqu'un dont il est tenu de s'occuper, si vous voulez.
Mais comment est vécu,
puis,
comment est vécu le départ de ses propres enfants, tout de même? Ceux qu'on a élevés toute sa vie.
C'est forcément douloureux, comme pour toute séparation avec ses enfants. Car, si vous voulez, le petit de l'homme, il est très dépendant et il le reste le même temps. Et donc, ça crée du lien, forcément. Ce qui fait donc que quand l'enfant part, c'est à la fois le vœu de tout parent, le rêve de voir un jour son enfant quitter la maison, parce que c'est un acte d'autonomisation, etc. Ce qui fait donc quand l'enfant part, les parents sont à la fois peinés, affectés, mais paradoxalement soulagés, si vous voulez. Je dirais même fiers, car ça montre quelque part qu'ils ont su assumer, et que l'enfant maintenant s'inscrit dans un projet d'autonomisation, que ce soit pour aller fonder une famille, que ce soit pour aller étudier, que ce soit pour aller émigrer. D'accord ? Mais le départ, aussi douloureux qu'il puisse être, si vous voulez, est jugulé quelque part ou contenu par le caractère gratifiant de ce départ du foyer.
C'est ça. Il y a un proverbe sénégalais qui dit quelque chose là-dessus.
Oui, il y a, comment il s'appelle, notre ami Francis Kane, sociologue, qui citait un adage soninké qui disait que les bons fils sont ceux qui acceptent de partir.
C'est ça, un bon enfant, un bon enfant, c'est l'enfant qui part.
L'enfant qui part, et même on dit que la meilleure éducation d'un enfant, comme la meilleure formation d'un adolescent, c'est forcément en dehors de l'environnement parental.
Oui.
Ça veut dire donc, dès le départ, dès la naissance ou le sevrage de l'enfant, son éloignement est quelque part conçu, hein, vanté, valorisé, même si aujourd'hui ça disparaît plus ou moins dans les mentalités, dans les représentations, mais traditionnellement, on disait que la meilleure éducation qu'on puisse garantir à un enfant et la meilleure formation à la vie qu'on puisse garantir à un jeune, c'est vraiment de l'éloigner du giron familial.
Ouais. Ça veut dire que pour le jeune, il n'a pas le choix, il faut qu'il parte aussi.
Il faut qu'il parte.
Si vous voulez, il y a une forme de pression.
Oui, et puis indépendamment de ça, c'est que pour le jeune, le départ vers l'ailleurs est toujours un acte de maturité, de maturation, de maturité, hein, comme s'il devait, s'il était tenu de répondre à un destin, à l'appel du destin. Mmh.
Et pour les mères, alors, donc vous le disiez, hein, c'est un signe de réussite sociale de toute évidence. Enfin, c'est un signe de réussite pour les parents, les enfants qui quittent le nid. Néanmoins, et donc c'est difficile de se plaindre. Mais alors, comment s'y prennent les mères pour quand même rester un peu une tour de contrôle ?
Ben, écoutez, les mères ne lâchent, j'ai tendance à dire qu'elles ne lâchent jamais le morceau. Car si l'enfant part, je veux dire, pour aller étudier ou émigre, ou tout simplement pour fonder un foyer,
ouais,
les mères les maintiennent toujours, même à distance, dans une sorte d'embrigadement émotionnel, psychologique, culturel et moral, qui laisse finalement à ses enfants, bien que majeurs et vaccinés, très peu de libre arbitre, hein, très peu de liberté de pensée, très peu de liberté d'initiative. Et si l'enfant est parti pour fonder un foyer, fonder une famille, ben, la mère a tendance à transformer, si vous voulez, le nouveau foyer des jeunes en une sorte de QG,
oui,
quelque part.
Où elle s'installe quand elle veut, c'est ça ?
Où elle s'y installe, où les jeunes restent avec elle, où elle s'y installe, ou alors à distance, elle va régenter la vie de son enfant, qu'il s'agisse de sa fille qui vient de se marier ou du fils qui vient de se marier.
Oui, d'accord.
Et qui fait donc que l'enfance peut s'éloigner géographiquement, mais psychologiquement, émotionnellement et sur le plan culturel, il reste toujours maintenu, prisonnier, si vous voulez, dans une sorte de camisole de force culturelle. Et la mère régente tout à distance.
Oui, c'est ça. Donc, le nid s'est vidé, mais le QG s'est déplacé. Hein. Mm-hmm. Notamment
absolument,
géré par la maman. À quelles conditions, vous avez entendu le témoignage de Garcia tout à l'heure, qui est partie à 30 ans, qui n'était pas mariée, ça a été compliqué pour elle à Brazzaville. À quelles conditions, aujourd'hui, à Dakar, on peut quitter la maison et la famille, en quelques mots ?
Chez la fille, en tout cas, c'est impensable.
Impensable,
chez la fille,
si.
C'est impensable.
Si elle n'est pas mariée.
Je veux dire que c'est le rêve. Oui, si elle n'est pas mariée. C'est le rêve de tout jeune, évidemment, de s'éloigner, mais impensable chez une jeune fille si elle n'est pas mariée. Chez le garçon, ça se passe encore, si vous voulez. Et chez la femme, ça met un point tel que même quand elle divorce, elle est tenue de revenir, si vous voulez, sous le toit familial. D'accord ? Donc, l'éloignement, et bon, bien sûr, avec les phénomènes migratoires maintenant, on réalise que ce n'est plus l'affaire des jeunes hommes, c'est aussi l'affaire de femmes, hein, dans les pirogues, malheureusement. Mais je veux dire, ça n'est plus réservé, ça n'est plus la zone réservée aux hommes, c'est aussi une initiative des femmes. Mais quand elles s'éloignent du giron familial pour vivre seules dans la même ville ou dans le pays, c'est difficilement concevable.
Restez en ligne un instant avec nous, Madame Mbodge. Marie-Josée Dastré souhaite intervenir.
Oui, c'est très intéressant. J'imagine, enfin, je vois très bien que l'Afrique a d'autres manières de fonctionner. J'ai vécu 4 ans il y a quelques années, c'est clair. En même temps, je pense qu'il y a un vrai message que nous, on peut donner. Et quand je dis nous, ça peut être les psychologues, la société en général, les médias, tout. Autour de justement, pour les femmes, de se prendre ce droit de devenir autre chose, le droit de ne pas plaire, le droit de créer des rapports d'adulte à adulte avec les enfants. On parlait tout à l'heure du poids éventuel qu'on fait peser sur les enfants en exprimant sa tristesse. Je pense que si on donne aux femmes ce droit moral et social de pouvoir devenir autre chose, de pouvoir exprimer autre chose, de pouvoir se transformer en autre chose. Je pense que là, elles auront peut-être moins ce besoin, ce désir ou cette pulsion qui est très bien décrite par notre collègue du Sénégal, de s'introduire, on va dire, dans la famille des enfants.
Ouais. Garder donc, des liens, mais avec d'autres types de
c'est
relations.
C'est quand même une forme d'emprise. Hein. C'est une forme d'emprise dont il est très difficile de se dégager. Et j'imagine que pour les enfants, enfants, ça doit être quand même lourd, quoi. Ouais.
Mamadou Mbodje, merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous de Dakar. Merci, très bonne journée à Dakar. Je précise que vous êtes psychologue. Un voisin nous appelle de la même ville pour poser une question. Souleyman, 30 ans à Dakar, bonjour.
Bonjour.
Vous avez une question à poser.
Bon, j'aimerais savoir s'il y a une méthode à suivre ou bien s'il y a une procédure à suivre avant de quitter son enfant ou bien avant de quitter ses parents, quoi.
Parce que vous êtes dans quelle situation, là, Souleyman, actuellement?
Bon, actuellement, moi, j'ai quitté mes parents, je suis à Dakar, mais parfaitement jusqu'à présent, bon, je n'arrive pas à avoir l'envie de rentrer sans rapporter quelque chose, quoi, même si j'ai l'air nostalgique. Je ne sais pas comment l'approuver, quoi.
Mais vous avez quitté vos parents qui habitent où, dans la même ville que vous?
Non, mes parents, ils sont en Guinée.
D'accord. Et vous avez quitté vos parents pour trouver du travail au Sénégal?
Oui, pour trouver du travail. Ou bien, il y avait certains même qui m'encourageaient de partir, aller faire l'aventure, aller dans des pirogues. Ouais. Mais moi, jusqu'à présent, je n'arrive pas à faire cela, quoi. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a, quoi.
Qui vous encourageait, vos parents ou d'autres personnes de votre entourage à tenter l'aventure, comme vous dites?
Bon, mes parents m'encouragent, mais indirectement. Chaque fois, ils me disent, regarde ce que tes amis ont réalisé, regarde ça, et toi, jusqu'à présent, une fois, ça me dit, une fois même, ça m'est arrivé, une fois, de me suicider, mais j'ai dit, non, c'est pas une solution, mais bon. Je n'arrive pas à comprendre, quoi. J'aimerais savoir, pourquoi certains parents encouragent leurs enfants à avoir tout écoute, quoi.
Pourquoi certains parents encouragent certains enfants à partir, c'est ça que vous voulez dire?
Oui.
Parce que je me demande, en fait, vous, ça vous pèse d'avoir quitté vos parents, c'est ça? C'est douloureux pour vous d'avoir quitté vos parents, c'est ça que vous voulez dire?
Voilà, moi j'ai la nostalgie de les revoir, mais chaque fois, si je les appelle, je dis je vais me retourner, il me dit non, il faut que tu fais ça, regarde tes amis, se réaliser.
Vous ne pouvez pas exprimer cette nostalgie. Vous ne vous sentez pas le droit d'exprimer cette tristesse et cette nostalgie que vos parents, tout simplement, vous manquent. Hein.
Oui, c'est le problème que j'ai actuellement.
Est-ce que ça vous empêche de vivre bien? Est-ce que c'est une tristesse qui vous empêche de travailler, d'être heureux?
Non, le problème actuellement, c'est la nostalgie que j'ai, mais le problème, la famille ne m'arrive pas à comprendre. Pour eux, d'abord, il faut que je gagne quelque chose avant de se retourner.
Vous avez un travail à Dakar, Souleyman?
Bon, j'ai un travail, mais qui n'est pas tellement fiable, parce que c'est pas permanent, quoi, c'est dynamique.
Mais au fond, moi, j'ai l'impression qu'il est nostalgique de son enfance, hein, que l'enfance, pour certaines jeunes adultes, et on voit ça aussi en France, hein, c'est un espèce de cocon qui est extrêmement rassurant. Et quand il faut s'envoler et prendre des responsabilités et s'assumer, il peut y avoir comme ça des moments de doute, de difficulté, de tristesse, voire même parfois de désespoir.
Souleyman, en tout cas, un conseil, hein, prenez soin de vous et de votre vie.
Oui.
Hein, ne tentez pas l'aventure, tentez plutôt de réussir à Dakar. Vos parents seront tout aussi fiers et vous serez en vie.
Et oui, maintenant j'ai dit, c'est la question que j'aimerais savoir. Par exemple, quelle est la méthode que je pourrais les faire comprendre pour se retourner envers eux, quoi? Par exemple, s'il y a une méthode à leur dire, moi actuellement, je vais aller rester ensemble avec eux, travailler pour eux.
C'est ça. Comment les convaincre que vous avez envie de rentrer en Guinée et de vivre proche de votre foyer?
C'est ça que vous dites, en fait.
Ouais, c'est la seule question que j'aimerais savoir.
Mais peut-être déjà en leur montrant que vous êtes capable, un peu loin de chez eux, de réussir quelque chose. Et peut-être en ayant réussi ça, ils vous feront confiance. Parce que j'ai l'impression que ça serait dommage que vous partiez sur un échec. Là, il me semble que ce qui vous manque, c'est un peu la confiance. Vous manquez un peu de confiance en vous. Et vous êtes peut-être dans le doute d'être capable de faire quelque chose seul. Peut-être que vous pourriez quand même vous encourager à ça. et ensuite, dans un deuxième temps, vous rapprocher d'eux.
Souleymane, en tout cas, ce qui est très compliqué pour vous, c'est que ce que vous souhaitez va à l'encontre de la pression sociale à l'heure actuelle, qui est une pression à la migration et au départ. Hein, très clairement, les familles poussent une partie de leurs enfants, en tout cas, à quitter le foyer, à quitter le continent. En tout cas, faites bien attention à vous, Souleymane, et puis n'ayez pas honte hein, d'afficher votre affection pour votre famille et votre souhait de vivre près des vôtres. Ça fait partie d'un sentiment de l'humanité, non ?
Bien sûr, bien sûr. On n'est pas obligé d'avoir envie de vivre à des milliers de kilomètres. Hein.
Marie-Josée Lastry.
Oui, et je voudrais dire à Souleymane, ça me touche beaucoup parce qu'en Europe, on est aussi nous confrontés à quelque chose de l'exil, mais qui est l'exil volontaire de nos enfants, ce qui n'est pas non plus très facile. C'est-à-dire, on a des enfants qui, eux, veulent partir très loin pour des raisons, par exemple, amoureuses ou professionnelles ou autres, et que nous, on a le problème contraire. Alors, Souleymane, si vraiment vous êtes seul, je vous adopte. Sous forme de plaisanterie, mais vraiment, c'est très touchant ouais. Et en tant que
parce
maman,
que
je suis très émue.
Votre fils est parti à l'autre bout de la planète, mais oui, il vit mais en oui. Amérique du Sud.
Mais oui, et il est très heureux et je m'en réjouis. Hein. Mais j'espère que quelque part, de temps en temps, il est triste aussi.
Ouais. Quand même, la vie n'est pas si bien faite. Merci en tout cas de nous avoir appelés, Souleymane. Hein. Bon courage. Vous continuez de nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Je vous propose d'écouter le témoignage d'une femme, Anne. Son fils vient tout juste de quitter la maison à 24 ans, c'était il y a 5 jours. Anne est divorcée et elle est partagée sur ses émotions et sa solitude.
Louis a 24 ans, il est parti à Nancy pour ses études, il est revenu, il était en alternance, il a un petit peu habité chez une de ses amies et puis là, il est parti définitivement il y a 5 jours.
Et alors, comment vous avez vécu ce départ ?
Contre toute attente, j'étais un petit peu bouleversée. Je l'ai accompagnée sur le lieu de sa location. Vraiment, c'était son premier appartement, son premier vrai appartement, parce qu'avant, c'était des chambres d'étudiants, ou des petits studios, ou chez un ami, ou en colocation. Et je me suis portée garante, alors je suis allée l'accompagner pour signer le bail. Pendant la signature, j'étais un peu tendue. Nous sommes revenus et heureusement, sur le chemin, il m'a dit « je vais rejoindre des amis pour boire un verre » et j'ai pu rentrer chez moi toute seule parce que je me sentais extrêmement tendue. À un moment donné, j'ai fondu en larmes. Je sentais qu'il fallait que je sorte toute cette tension et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il était parti pour de vrai. Je ne sais pas ce qui s'est passé en fait. Je pense que juste je m'inquiétais de le savoir bientôt tout seul dans un grand appartement avec un décor pas encore arrangé, un peu tristouné. Et je pense que je m'inquiétais pour lui plus que pour moi. Je réalise que cet enfant, je l'ai porté jusqu'au bout. Je suis fière de lui et ça me bouleverse, mais pas de tristesse. Ça me bouleverse parce que voilà, c'est une mission accomplie et on passe à autre chose.
Et pourquoi cette inquiétude, elle ne vous avait pas gagné les autres fois où il avait vécu en colocation ou pour ses études à droite à gauche ? Pourquoi là, à ce moment-là ?
Bah, peut-être parce que sa chambre a été vidée. Il y a un sommier seul, sans matelas, une chaise et quelques débris. Donc c'était un peu tristouné. Enfin, je pense que quand j'aurais aménagé sa chambre en bureau, pour moi, joliment, eh bien, voilà, ça sera que la page sera tournée.
Comment vous voyez votre quotidien, là, à l'avenir ?
Oh ben ça, c'est très bien. Ça, je dois dire que j'ai de plus en plus besoin de me retrouver de temps en temps seul, de me poser, de prendre des repas comme je veux, et de voir qui je veux, quand je veux. Pendant quand même 7 ans, j'étais tout le temps sollicitée. Je trouve que je le suis encore beaucoup. Je réalise que j'ai pratiquement toujours habité avec quelqu'un. J'ai vécu 2-3 années seule dans des chambres de bonne quand j'étais étudiante. Et puis finalement, j'ai rencontré mon mari assez vite, à 22 ans. On a très vite habité ensemble. Quand j'ai divorcé, je me suis retrouvée avec mes enfants tout le temps, pas en alternance, tout le temps. Et donc, du coup, j'ai 60 ans et je réalise que j'ai besoin de faire cette expérience, de vivre seule, de me retrouver. Et puis après ça, on verra si j'ai besoin à nouveau de vivre avec quelqu'un ou dans une communauté, on ne sait pas.
7 milliards de voisins, c'est sur RFI.
B.
Béatrice Copper-Royer, il y a aussi des femmes qui culpabilisent tout d'un coup de se dire bah, « ce moment-là de ma vie, c'est pour moi, je pense enfin à moi, je suis recentrée sur moi ». Il y a une forme de culpabilité.
Oui, je ne sais pas s'il y a une culpabilité, mais en tous les cas, c'est tout à fait légitime parce qu'au fond, l'éducation des enfants et la vie avec des enfants c'est faite de beaucoup de plaisir, mais aussi de beaucoup de contraintes. Et donc, il y a un souci permanent. Elle disait très bien, Anne, dans son témoignage, combien... c'est l'idée aussi de protection. Quand on a des enfants avec soi, on n'est jamais complètement libre. D'ailleurs, je trouve que quand on devient mère, on perd un peu l'insouciance. Et puis, quand ils partent, il y a finalement tout ce temps libéré et ce souci aussi en moi. Donc, il y a quand même un gain.
Alors, comment on fait évoluer sa vie, d'abord, sa vie, et puis ses relations avec ses enfants, qu'il faut parfois réinventer.
La première chose, il me semble, c'est arriver à se libérer de la nécessité d'être utile aux autres. Parce qu'il y a vraiment ça avec les enfants. Quelqu'un parlait tout à l'heure aussi de besoin. Ils n'ont plus besoin. C'était ce couple, et le monsieur disait, il n'avait plus besoin de nous et on n'avait plus besoin de lui. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que il y a une histoire de processus de deuil, hein, à la fin de quelque chose. Donc, le deuil, la question, c'est d'arriver à l'intégration de ce qui se passe. Je pense que dans une transition comme celle-là, il faut passer de l'intégration à ce qui s'est passé, c'est-à-dire on intègre cette absence, et puis qu'est-ce qui se passe après? Et c'est là, à mon avis, que c'est très important de s'autoriser le rêve. Mais dans la question du rêve, du nouveau projet, surtout dans une société où tout a changé, je veux dire aujourd'hui, les gens qui arrivent à 50 ou 60 ans, on ne parle pas non plus 50 ans la ménopause. Hein. Les femmes, souvent, quand même un peu secouées. Ça arrive souvent à 50 ans hein, que les enfants s'en aillent. Et ça aussi, c'est un joli tabou, hein, quand même, la ménopause. Hein. Mais une fois qu'on arrive donc, dans cette tranche d'âge où, statistiquement, on a encore 30 ans devant soi, la question du rêve et de l'individualité et de cette liberté-là n'est absolument pas posée ou pensée. Et la liberté, elle a un coût. C'est-à-dire... Encore une fois, est-ce que ce que je vais faire va plaire à tout le monde? Il y a une grande liberté qu'on peut donner aussi à l'enfant en disant, au fond, en formulant ou en tout cas en ayant en tête que peut-être tout ce qu'il va faire ne va pas vous plaire et que lui, de son côté, peut-être tout ce que vous allez faire ne va pas lui plaire. Et prendre cette liberté-là, eh ben, peut-être ce n'est pas si simple.
Et l'exprimer avec ses enfants ou pas? Comment on réinvente ses relations avec
Mais
ses
moi,
enfants?
Justement, c'est ce que je voulais dire, c'est que je trouve que, et ça devrait réconforter les parents dans le désarroi aujourd'hui, c'est que je trouve que les rapports des parents avec des enfants adultes, mais c'est formidablement agréable. On est justement épargné des vrais soucis d'un quotidien qui est quand même pas toujours aussi réjouissant que ça, et ils nous apportent leurs expériences, leur vie, leurs compagnons, leurs compagnes, leurs enfants quand ils en ont. Donc je veux dire, il y a un énorme gain aussi à avoir des enfants qui deviennent adultes. Donc réjouissons-nous aussi.
On n'a pas parlé de l'enfant et de l'effet boomerang quand les enfants reviennent. Alors, on en avait beaucoup parlé au moment de la crise financière de 2008 et où l'Europe du Sud était particulièrement touchée par le chômage des jeunes qui atteignait des sommets, notamment en Espagne, en Italie, au Portugal, où il y avait des enfants qui revenaient vivre à la maison chez leurs parents. Néanmoins, avec l'augmentation des prix des loyers dans les grandes villes en Europe, notamment à Paris, c'est un vrai problème. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans, psychologiquement, où en sont les parents
avec ça? C'est pas très facile pour un jeune adulte de 25, 26, 27 ans, voire plus, d'être contraint de repartir chez ses parents parce qu'économiquement, il n'arrive pas à s'assumer.
Ou contraint de rester, de ne pas partir,
voilà,
bien qu'il ait un boulot.
Parce que, on sent bien, enfin, quand on est parent et qu'on a des enfants qui deviennent adultes, on sent bien que la cohabitation, elle n'est pas non plus aussi naturelle que ça. On est obligé d'avoir une espèce de des règles familiales, et en même temps, elles ne sont plus du tout adaptées à des adultes. Je veux dire, ça s'accorde.
Sans parler des enfants qui ont une vie de couple sous le toit des parents.
Voilà, exactement. Donc tout ça s'accorde beaucoup moins bien et je pense que c'est une souffrance pour ces jeunes qui sont contraints.
Marie-Josée Dastrès, qui a eu, puisque vous avez écrit sur vos trois fils qui sont partis, qu'il y a eu un moment donné où vous avez souhaité aussi qu'ils partent.
Qu'ils partent j'ai souhaité qu'ils partent. Oui, c'est-à-dire en fait, je les ai élevés pour qu'ils partent. Hein. Je crois que vraiment, l'éducation, c'est voir un enfant qui peut déployer ses ailes, être libre et partir là où il a envie. C'est quand même une immense réussite. Donc je pense que c'était vraiment... On a vécu en plus beaucoup à l'international, c'était une évidence. Hein. Sur la question de l'enfant boomerang, en plus, je crois qu'il y a vraiment ce que les gens disent et puis ce que les gens ressentent. Hein. Moi, j'ai vu sur des salons des femmes me tomber dans les bras en pleurs, tenant un discours en société, puis disant d'autres choses. Un peu comme, vous savez, à la sortie de la maternelle, quand on parle entre parents, votre enfant est toujours génial. Et puis quand vous arrivez à la maison, c'est un peu plus crise quand même. Donc, je crois que dans le cœur des gens, il y a aussi... dans ce que je vois autour de mes amis, autour de moi. Je n'ai pas eu d'enfant vrai boomerang comme ça hein, pour l'instant. Mais il y a aussi une vraie peur de ça. Je crois que les parents, une fois que c'est fait, ils n'ont pas envie. Alors bien sûr, ils ont leur cœur
parce que ça signe aussi un échec, une difficulté, tout simplement, une difficulté financière pour les enfants de s'assumer.
Pas forcément. Hein. Enfin, moi, j'ai vu d'autres cas où c'est simplement, ils se sont dit, tiens, on est mieux à la maison que forcément.
Oui. Voilà. C'est un peu l'exception, je pense.
Oui. En général, c'est quand même des difficultés financières.
Quand ils ont goûté, moi, j'en ai vu plusieurs. Même ceux qui, par exemple, partent pour leurs études un an et puis sont contraints de revenir avant de trouver du boulot, eh ben, le retour n'est pas toujours facile.
Une auditrice nous appelle de Madagascar. Tananarivo. Bonjour Véro.
Bonjour.
Vous avez 33 ans.
Mm-hmm.
Et alors, où en êtes-vous aujourd'hui?
Alors, aujourd'hui, j'appelle mes parents de temps en temps et je vais aller voir de temps en temps, sinon ils viennent me voir.
Vous avez quitté la maison à 22 ans, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Mm-hmm. Et vous avez vécu au Japon?
Mm-hmm.
Vous êtes mariée?
Oui.
Mais finalement, est-ce que vous avez coupé le cordon ou pas?
Alors, au début, non, j'ai pas du tout coupé le cordon.
Oui.
Même au Japon, donc j'appelais les parents tous les jours. Et puis, revenu au pays, je les voyais tous les jours et je les appelais tous les jours, sinon.
Et aujourd'hui, alors, qu'est-ce qui vous a permis de couper le cordon? Est-ce que vous aviez peur que vos parents soient tristes, finalement, de votre départ?
Oui, parce que j'étais la dernière à partir. Mmh. Et donc, je me sentais un peu responsable de savoir s'ils vont bien, s'ils ont tout ce qu'il faut. Mais d'avoir une relation aussi proche, en fait, ça a emprunt quand même sur le couple et sur l'indépendance de penser, de choisir des choses. Donc, à un moment, j'ai pris mes distances.
Et vous leur avez dit à vos parents? Ah, on a un petit problème avec la ligne à Antananarivo. Mais enfin, Béatrice Coparroyer, je vous voyais hocher de la tête.
Non, mais c'est
ça nous fait penser à la maman que décrivait le psychologue sénégalais Mamadou Mbodj, qui, quand même, qu'on garde qui un œil à distance. Qui,
ouais. Et d'ailleurs, je me dis qu'avec, par exemple, les nouvelles technologies, il y a beaucoup de parents, même en Europe et en France, qui continuent justement d'avoir un lien de proximité et peut-être un peu trop, c'est-à-dire qui sont beaucoup quand même dans le contrôle. Et je me dis que les nouvelles technologies, maintenant, permettent ça. Avant, quand les enfants partaient, ils partaient. Maintenant, il y a toujours cette espèce de cordon ombilical virtuel qui fait qu'on est beaucoup plus en communication avec eux.
Alors, on parle de quoi avec ces enfants quand ils sont partis, justement, si on a décidé qu'on ne maintenait pas le contrôle de savoir s'ils sont en bonne santé, s'ils mangent bien, s'ils font tout comme il faut, comme on leur a appris. On parle de quoi, finalement, Marie-Josée Dastré?
Moi, je pense que quand même, en tout cas, sur la question européenne, je veux vraiment jeter le pavé dans la mare dont on ne parle pas, mais la relation, elle est très différente si c'est un fils ou si c'est une fille qui s'en va. Parce que l'image de stigmatisation, on va dire, quand l'enfant est en couple de la belle-mère qui est la mère du garçon, est quand même pas du tout la même que celle de la mère qui est la fille. C'est-à-dire, si une jeune femme faisait comme cette auditrice de Antananarivo, qui appelle ses parents, etc., ce serait vu comme quelque chose d'assez bizarre. Hein. Donc, il y a une différence.
Merci en tout cas à toutes les deux. Marie-Josée Dastré, vous avez publié Le Nid Vide, récit d'un mal de mère et petit guide pour parents esselés. C'est publié chez Favre. Et Béatrice Coparroyer, c'était Le jour où les enfants s'en vont, ouais, chez Albin Michel. Voilà, tout ça est à méditer. Merci à toute l'équipe, Sigrid Azeroual, Delphine de Dianous, Romain Dubrac, Raphaël Lazizi. Vous nous écoutez bien sûr sur l'appli RFI Pure Radio pour nous retrouver en podcast également. Et demain, 7 milliards de voisins, ça sera la journée internationale des filles. Quel levier pour que les filles accèdent enfin à l'éducation en toute égalité par rapport aux garçons? Et vous, les garçons, qu'êtes-vous prêts à faire pour en finir avec les injustices qui touchent vos sœurs, vos cousines et vos petites amies? À demain.